Chapitre 12, où il est dit comment l'ange Mirard, en portant des grâces et des consolations dans le quartier des Champs-Élysées, à Paris, vit une chanteuse de café-concert nommée Bouchotte, Enema. Par les rues pleines d'un brouillard roux, piquées de lumières jaunes et blanches, où les chevaux soufflaient leur haleine fumante et que sillonnaient les phares rapides des autos, l'ange prit sa course et, mêlé au flot noir des piétons qui s'écoulaient sans cesse, traversa la ville du nord au sud jusqu'au boulevard désert de la rive gauche. Non loin des vieux murs de Port-Royal, un petit restaurant jette chaque soir sur la voie la clarté trouble de ses vitres couvertes de buée. Arrêtant là ses pas, Arcade pénétra dans la salle où s'exhalaient des odeurs grasses et chaudes, agréables aux malheureux transis de froid et de faim. D'un coup d'œil, il y vit des nihilistes russes, des anarchistes italiens, des réfugiés, des conspirateurs, des révoltés de tous les pays, vieilles têtes pittoresques d'où coulent la chevelure et la barbe comme des rochers, les torrents et les cascades, jeunes visages d'une dureté virginale, regards sombres et farouches, pâles prunelles d'une douceur infinie, face torturée, et dans un coin deux femmes russes, l'une très belle, l'autre hideuse, toutes deux pareilles en leur égale indifférence, à la laideur comme à la beauté. Mais ne trouvant point la figure qu'il cherchait, car il n'y avait point d'ange dans la salle, il prit place à une petite table de marbre restée libre. Les anges, sous l'aiguillon de la faim, mangent ainsi que les animaux terrestres, et leur nourriture, transformée par la chaleur digestive, s'identifie à leur céleste substance. Ayant vu trois anges sous les chaînes de membré, Abraham leur offrit des gâteaux pétris par Sarah, un veau tout entier, du beurre et du lait, et ils mangèrent. Lot, ayant reçu deux anges dans sa maison, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Arcade reçut d'un garçon crasseux un biftec coriace, et il mangea. Cependant, il songeait aux doux loisirs, au repos, aux délicieuses études qu'il avait quittées, à la lourde tâche qu'il avait assumée, aux travaux, aux fatigues, aux périls qu'il se préparait. Et son âme était triste, et son cœur se troublait. Comme il achevait son maudit repas, un jeune homme de pauvre mine et de minces vêtements entra dans la salle, et ayant du regard parcourir les tables, s'approcha de l'ange et le salua du nom d'Abdiel, parce qu'il était lui-même un esprit céleste. « Je savais bien, Mirard, que tu viendrais à mon appel, » répondit Arcade, donnant pareillement à son frère angélique le nom que celui-ci portait autrefois dans le ciel. Mais la mémoire de Mirard y était perdue, depuis que cet archange avait quitté le service de Dieu. Il se nommait Théophile Belay sur la terre, et pour gagner son pain, donnait le jour des leçons de musique à de jeunes enfants. La nuit, jouait du violon dans les bastringues. « C'est toi, cher Abdiel, » répliqua Théophile. Nous voici donc réunis en ce triste monde. Je suis heureux de te revoir, pourtant je te plains, car nous menons ici une dure vie. Mais Arcade, ami, ton exil finira. J'ai de grands desseins, je veux t'en faire part et t'y associer. Et l'ange tutélaire du jeune Maurice, ayant commandé deux cafés, révéla à son compagnon ses idées, ses projets. Il exposa comment de ses jours sur la terre, il s'était livré à des recherches peu habituelles aux esprits célestes et avait approfondi les théologies, les cosmogonies, les systèmes du monde, les théories de la matière, les modernes essais sur la transformation et la perte de l'énergie. Ayant, disait-il, étudié la nature, il l'avait trouvée en perpétuelle contradiction avec les enseignements du maître qu'il servait. Ce seigneur, avide de louanges qu'il avait longtemps adoré, lui apparaissait maintenant comme un tyran ignare, stupide et cruel. Il l'avait renié, blasphémé et brûlé de le combattre. Son dessein était de recommencer la révolte des anges, il voulait la guerre, espérait la victoire. Mais il importe avant tout, ajouta-t-il, de connaître nos forces et celles de l'adversaire. Et il demanda si les ennemis de Yadalbaoth étaient nombreux et puissants sur la terre. Théophile leva sur son frère un regard surpris. Il semblait ne pas comprendre les propos qui lui étaient adressés. « Cher compatriote, lui dit-il, je me suis rendu à ton invitation parce qu'elle venait d'un vieux camarade. Mais j'ignore ce que tu attends de moi, et je crains de ne pouvoir t'aider en rien. Je ne fais pas des politiques. Je ne m'érige point en réformateur. » Je ne suis pas comme toi un esprit révolté, un libre penseur, un révolutionnaire. Je demeure fidèle au fond de mon âme à mon Créateur céleste. J'adore encore le Maître que je ne sers plus, et je pleure les jours où, me couvrant de mes ailes, je formais, avec la multitude des enfants de la lumière, une roue de flamme autour de son trône glorieux. L'amour profane m'a seul séparé de Dieu. J'ai quitté le ciel pour suivre une fille des hommes. Elle était belle et chantait dans les cafés-concerts. Ils se levèrent. Arcade accompagna Théophile qui demeurait à l'autre bout de la ville, au coin du boulevard Rochechouart et de la rue de Sainte-Kerque. Tout en marchant par les rues désertes, L'amant de la chanteuse conta à son frère ses amours et ses peines. Sa chute, qui datait de 2 ans, avait été soudaine. Appartenant au 8e cœur de la 3e hiérarchie, il était chargé de porter des grâces aux fidèles qui subsistent encore nombreux en France, spécialement parmi les officiers supérieurs des armées de terre et de mer. Une nuit d'été, dit-il, comme je descendais du ciel pour distribuer des consolations, des persévérances et des bonnes morts à diverses personnes pieuses du quartier de l'Étoile, mes yeux, bien qu'habitués aux clartés immortelles, furent éblouis par les fleurs de feu dont les Champs-Élysées étaient semées. De grands candélabres qui marquaient sous les arbres l'entrée des cafés et des restaurants donnaient au feuillage l'éclat précieux de l'émeraude. De longues guirlandes de perles lumineuses entouraient les enceintes à ciel ouvert où se serrait une foule d'hommes et de femmes devant un orchestre joyeux dont les sons montaient confusément à mes oreilles. La nuit était chaude, mais elle commençait à se lasser. Je descendis dans un de ces concerts et m'assis invisible parmi les auditeurs. À ce moment, une femme parut sur la scène vêtue d'une robe courte et pailletée. Les reflets de la rampe et la peinture qui couvraient son visage ne laissaient voir que le regard et le sourire. Son corps était souple et voluptueux. Elle chanta et dansa. Arcade, j'ai toujours aimé la musique et la danse, mais la voix mordante et les mouvements insidieux de cette créature me jetèrent dans un trouble inconnu. Je pâlis, je rougis, mes yeux se voilèrent, ma langue sécha dans ma bouche. Je ne pouvais me mouvoir. Et Théophile conta en gémissant comment, possédé du désir de cette femme, il ne remonta point au ciel. Mais ayant pris la forme d'un homme, vécu de la vie terrestre, car il est écrit. En ce temps-là, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ange tombé, ayant perdu son innocence avec la vue de Dieu, Théophile gardait du moins encore la simplicité de l'esprit. Vêtu de haillons dérobés à l'étalage d'un revendeur israélite, il alla trouver celle qu'il aimait. Elle se nommait Bouchotte et habitait un petit logement à Montmartre. Il se jeta à ses pieds et lui dit qu'elle était adorable, qu'elle chantait délicieusement, qu'il l'aimait à la folie, qu'il renonçait pour elle à sa famille, à sa patrie, qu'il était musicien et n'avait pas de quoi manger. Touchée de tant de jeunesse, de candeur, de misère et d'amour, elle le nourrit, le vêtit et l'aima. Cependant, après de longues et pénibles démarches, il trouva des leçons de solfège et se fit quelque argent, qu'il apportait à son ami sans en rien garder pour lui. Dès lors, elle ne l'aima plus. Elle le méprisa de gagner si peu et lui laissa voir son indifférence, sa lassitude et son dégoût. Elle l'accablait de reproches, d'ironies et d'injures. Pourtant, elle le gardait, ayant fait avec d'autres pires ménages, accoutumée aux querelles domestiques et, du reste, menant au dehors une existence très occupée, très sérieuse et très rude d'artiste et de femme. Théophile l'aimait comme la première nuit et souffrait. « Elle se surmène, dit-il à son frère Céleste. C'est ce qui lui rend le caractère difficile, mais je suis sûr qu'elle m'aime. J'espère pouvoir prochainement lui donner plus de bien-être. » Et il parla longuement d'une opérette à laquelle il travaillait et qu'il comptait faire jouer sur un théâtre parisien. Un jeune poète lui en avait donné le livret. C'était l'histoire d'Aline, reine de Golconde, d'après un conte du XVIIIe siècle. « J'y sème, dit Théophile, des mélodies à profusion. Je fais de la musique avec mon cœur. Mon cœur est une source inépuisable de mélodies. Malheureusement, on aime aujourd'hui les arrangements savants, les écritures difficiles. Il me reproche d'être trop fluide, trop limpide, de ne pas assez colorer mon style, de ne pas demander à l'harmonie assez d'effets puissants et de contrastes vigoureux. L'harmonie, sans doute elle a son mérite, mais elle ne dit rien au cœur. C'est la mélodie qui nous transporte et nous ravit, et fait venir aux lèvres, aux yeux, le sourire et les larmes. » À ces mots, il se sourit et se pleura à lui-même. Puis il reprit avec émotion. « Je suis une fontaine de mélodie, mais l'orchestration, voilà le chien-dent. Au paradis, tu le sais, Arcade, nous ne connaissons en fait d'instruments que la harpe, le psaltérion et l'orgue hydraulique. » Arcade l'écoutait d'une oreille distraite. Il songeait au projet qui emplissait son âme et gonflait son cœur. « Connais-tu les anges révoltés ?» demanda-t-il à son compagnon. « Pour moi, je n'en connais qu'un seul, le prince Istar, avec qui j'ai échangé quelques lettres et qui m'a offert de partager sa mansarde en attendant que je trouve à me loger dans cette ville où je crois que les loyers sont très chers. » D'anges révoltés, Théophile n'en connaissait guère. Quand il rencontrait un esprit déchu dont il avait été jadis le camarade, il lui serrait la main car il était fidèle à l'amitié. Quelquefois, il voyait le prince Istar, mais il évitait tous ces mauvais anges qui le choquaient par la violence de leurs opinions et dont les conversations l'assommaient. « Alors tu ne m'approuves pas ?» demanda l'impétueux Arcade. « Ami, je ne t'approuve ni de te blâme. Je ne comprends rien aux idées qui t'agitent. Et je ne crois pas qu'il soit bon pour un artiste de faire de la politique. On a bien assez de s'occuper de son art. » Il aimait son métier et avait l'espoir de percer un jour, mais les mœurs théâtrales le dégoûtaient. Il ne voyait de chance de faire jouer sa pièce qu'en prenant un, deux et peut-être trois collaborateurs qui, sans y avoir travaillé, signeraient avec lui et partageraient les bénéfices. Bientôt, Bouchotte ne trouverait plus d'engagement. Quand elle se présentait dans une boîte quelconque, le directeur commençait par lui demander combien elle prenait de part dans l'affaire. C'était là, selon Théophile, le triste meurtre.